Le thème aujourd'hui, c'est un thème très fondamental. Alors, vous avez les, on pourrait dire, les quatre éléments qui forment l'Alliance au Canada et aux États-Unis à travers le monde. Alors, il y a quatre éléments. Jésus sauve, Jésus guérit. On va voir ça la semaine prochaine. Ensuite, il sanctifie, puis il règne et il revient. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est que Jésus sauve. Hein? Jésus est sauveur. Amen. Si on dit que Jésus est sauveur, ça sous-entend quoi? Qu'on a besoin d'être sauvé, qu'on est perdu. Hein? Il est venu sauver ceux qui sont perdus. Alors, je présume qu'on est tous dans cette situation-là. Maintenant, ça veut dire quoi, ça, pour un Québécois? Être sauvé ou être perdu. Pensez-y une minute, là. Les gens avec qui vous travaillez, les voisins autour, vos familles, si vous leur dites qu'ils sont perdus.
Ils ne sont pas convaincus d'être perdus.
Ils ne sont pas convaincus du tout, hein? Non. La réponse en général, c'est je ne suis pas si pire que ça, ou je fais de mon mieux, je sais que je ne suis pas parfait. Mais je n'ai pas fait des grosses affaires, là. Je n'ai pas tué personne. Et puis, je ne suis pas trop méchant. Et etc., etc. On essaie de justifier un peu notre situation. Les jeunes, je ne sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai été jeune, mais dans votre milieu, si vous êtes un jeune qui est perdu, qu'est-ce que ça représente? Et... il y a le frère de Lise qui était presque sur son lit de mort, il était vraiment condamné. Et puis on a essayé d'y apporter le message du salut. Et puis ce qu'il nous a répondu, c'est je vais m'arranger. Dieu, il paraît qu'il est bon, qu'il est amour. Je m'arrangerai bien avec de l'autre côté. C'était la seule petite ouverture qu'on a eue. Il ne voulait rien savoir de... L'Évangile ne veut rien savoir de Jésus et il allait s'arranger avec lui de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui faisait du porte-à-porte et puis il se présentait pour annoncer l'Évangile aux personnes. Et la plupart des gens disaient « Non, on n'a pas besoin de ça, nous autres, on est correct, on a tout ce qu'il faut ». Puis il demandait aux personnes, y a-t-il quelqu'un que vous connaissez, vous pensez qu'il aurait besoin d'aide, il aurait besoin d'être sauvé? Ah oui, il dit, l'ivrogne en bas, là, lui, je pense qu'il a besoin d'être sauvé. Puis la madame, là, la prostituée, là, de l'autre côté, j'entends des chicanes, des fois, il y a un monsieur violent là, dans un des appartements. Je pense qu'eux autres, ils auraient besoin d'être sauvés. Alors... il est allé cogner à ces portes-là et c'est comme ça que son église est partie. Il a bâti son église avec ceux qui sont perdus. Alors, Jésus sauve. Le Québécois va dire, on se débrouille bien sans Dieu. On l'a essayé. Hein, on a essayé ça, Jésus. On a essayé la chrétienté. Et puis, on passe à d'autres choses. Hein? Ça, c'est du temps passé. On met Dieu de côté et on a du fun pareil. Hein? Le ciel ne tombe pas sur la terre. On a du fun pareil. C'est moi qui décide, un Québécois va dire, c'est moi qui décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal pour moi. Ça, c'est la nouvelle religion, on peut dire. Je décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal et qu'il n'y ait pas personne qui vienne me dire que ce n'est pas correct. Hein? Que personne ne vient de me dire quoi faire. Ça ressemble à ça? Autour? Hein? Alors, qu'il n'y ait personne et surtout pas un religieux. Surtout pas une religion. Aujourd'hui, toutes les religions sont mauvaises. Hein? Islam aidant. Alors, on met tout ça dans le même paquet et on met Dieu puis on met les religions de côté. Et ça, c'est un peu ce que le Québécois pense. Est-ce que le Québécois est perdu? Oui? Un vieux piège, hein? Un vieux piège. Je vais décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Oui? Hein? Adam et Ève, on recule très loin en arrière. Et ça a été la chute. On va décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et on va mettre de côté ce que Dieu dit. Alors, c'est un vieux péché, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on vit. On retourne tranquillement, pas vite, au paganisme, à la vie sans Dieu. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Hein? Alors, on se jette là-dedans. Je ne sais pas si vous lisez, qu'est-ce qu'il y a sur la pierre tombale? La mort n'est que récompense pour avoir enduré la vie. Quelqu'un qui a mis ça sur sa pierre tombale. Hein? Est-ce que... Et je pense que les gens sont perdus. Et on va décider qu'est-ce qui est bien et mal. Imaginez qu'on est sur le bord d'un précipice, là. Et puis, il y a le vide. En bas. Et puis, moi, je décide de défier les lois de la nature, les lois physiques, et de me jeter en bas. Hein? Est-ce que c'est le fun? Quelques secondes. Hein? Je suis libre. On est libre. On choisit, nous, de défier les lois de la nature. Alors, oui, ça peut avoir, on peut avoir du plaisir ou on peut avoir du fun pour quelques instants, mais on n'a pas le contrôle sur l'atterrissage. On peut se jeter en bas, on peut se jeter dans le vide, on peut mettre la morale, la loi de la gravité de côté, on peut mettre les lois morales de côté, mais c'est sûr qu'en quelque part, on va récolter, on va atterrir dans quelque chose qui est terrible. Hein? On a juste à penser à la sexualité. La liberté qu'on se donne, on se jette, on met ce que Dieu dit de côté sur la sexualité, puis on se jette en bas, dans le vide, en pensant qu'on va avoir du fun, qu'on va avoir du plaisir, qu'on va avoir le bonheur. Mais attention à l'atterrissage. Alors, il y a un verset qui nous ramène à la réalité, car... Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que les Québécois sont perdus? Oui? Tous ont péché, sont privés de la gloire, sont privés de la présence de Dieu. Dieu, la relation que j'ai avec Dieu, c'est la présence. Maintenant, on va prendre des exemples pratiques. J'ai trouvé quelques exemples pratiques. Joseph, hein, c'est pas quelqu'un que je connais, là. Hein, c'est fictif. Alors, Joseph, viens manger, la soupe est prête. Joseph, viens manger, la soupe est prête. Joseph, lâche ton ordi, lâche ton iPod, lâche tes jeux vidéo. Joseph, la soupe est prête, ça va être froid. Joseph, deux fois, trois fois. Qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Continue. Hein? Continue. Ça s'appelle comment, ça? Désobéissance. Hein? Centré sur son plaisir, centré sur soi. Il est jeune, là, Joseph. Alors, une tache sur son bel habit. Là, il y a des bruits dans sa chambre. Il est avec sa petite sœur. Il y a des bruits dans la chambre. Et puis là, ça se chicane. Hein? C'est un mot québécois qui veut dire ça se querelle. Hein? C'est à moi, ça? Non, non, c'est à moi. Non, c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Non, c'est à moi. Clac! Hein? Une bonne claque. Des pleurs. Et puis, espèce de folle, Ça s'appelle comment, ça? Violence? Querelle? Insulte? Violence? Une autre tâche. Joseph, t'as-tu fait tes devoirs? Hein? T'as-tu fait le ménage dans ta chambre? Joseph, si je vais dans ta chambre, que ça va avoir l'air? Hein, les enfants? Hein, viens pas? Oui. Hein? J'ai tout fait ça. Puis si on va voir dans la chambre, il n'y a rien fait. Ça s'appelle comment, ça? Mensonge. Hein? Un autre tache sur son bel habit. La paresse, peut-être aussi. Hein? Joseph, c'est quoi ces bonbons-là? Hein? Joseph, c'est quoi cet argent-là? Ah, je les ai trouvés sur le banc, dans le parc. Trouvez ça sur le banc, dans le parc. Quoi, des cigarettes? Joseph! Hein? Oui, j'ai trouvé le portefeuille sur le banc dans le parc, mais il a oublié de dire que la madame est encore là. Ça s'appelle comment, ça? Du vol. Un autre tâche? Ouais. Comment ça s'appelle, ces tâches-là? Hein? Péché. Péché. Est-ce qu'ils ont suivi un cours pour apprendre à pécher dans le sein maternel? Non. Ça vient tout seul. J'ai des exemples d'adultes. Ça, c'est un enfant, des petits péchés. Hein? Mais il y a un Mohamed qui loue un camion, un gros camion. Puis il va écraser 84 personnes, la peau dans l'asphalte, les bébés là-dedans, 202 blessés, 84 personnes, puis il y en a encore entre la vie et la mort, ça peut monter à 100 personnes. Comment ça s'appelle, ça? Un meurtre. Et on trouve ça grave, 84 personnes, hein? République démocratique du Congo, combien de morts? 6 millions de morts, à peu près la province de Québec. Depuis combien d'années? Est-ce qu'on a des frères et des sœurs du Congo ici? Combien d'années? Environ? 10 ans? 10 ans, si vous faites le calcul, là, ça fait à peu près 2000 morts par jour. Et ça s'appelle comment, ça? Le meurtre. Le meurtre gratuit. Hein? Est-ce que tous ont péché? Du plus petit au plus grand? On est tous pécheurs. Et vous vous souvenez ce que Jésus a dit? Vous avez appris qu'il était dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit « imbécile » passera devant le tribunal. Et celui qui traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. La même punition que Mohamed. J'ai combien de meurtres sur la conscience? On est mieux? On n'est pas mieux. On est tous pécheurs. On est tous dans la même barque. Pourquoi est-ce que Joseph a fait ça? Pourquoi est-ce que Mohamed a fait ça? Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Pourquoi est-ce que nous péchons? Parce que c'est notre nature. C'est naturel. On n'a pas besoin de se forcer. On n'a pas besoin de suivre de cours. Hein? C'est facile, c'est naturel, ça vient tout seul. On a juste à se laisser aller et puis on va pécher facilement. On a ça dès la naissance. Un enfant, comme on a vu tantôt, il va désobéir tous les jours. Et c'est naturel. Cette vieille nature, hein? Nous étions morts par nos fautes et par nos péchés. Nous faisions partie des fils de la rébellion. Nous étions de leur nombre. Nous étions par nature des enfants de colère. Exactement comme Mohamed et comme Joseph. Nous étions morts par nos fautes. Et waouh, hein? Je sais, c'est dur un matin, mais il y a une bonne nouvelle là-dedans, là. Il nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Un contraste incroyable, n'est-ce pas? Hein? Des maudits pécheurs que nous sommes. Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il nous a ressuscités. Il nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et pas de voir. Wow! Il nous a pris dans la hein? Et puis, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Amen. Le péché, c'est des tâches, hein? Indélébiles. Ça ne s'efface pas. On ne peut pas effacer ces tâches-là. Joseph, il ne peut pas, puis Mohamed non plus. Mais la suite, hein, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je pense que je vais le faire jouer. Facile. Hein? Les grosses fautes, les petites fautes aussi. Les enfants, Jésus peut effacer encore. Oh, les enfants. Regardez les enfants.
Regarde l'écran.
Hein? Quand on a désobéi là, à nos parents, on a fait quelque chose de pas bien, de pas correct, regarde qu'est-ce qui se passe quand... Nos péchés peuvent être effacés. On a un habit qui est tout sale. Et puis, lorsqu'on reçoit le pardon de Dieu, notre habit est tout lavé, il est tout blanc. On a juste à dire... « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché et je suis un pécheur. » Et il va nous revêtir d'un bel habit blanc, plus blanc que la neige. Alors, on a une bonne nouvelle. Si nous... confessons nos péchés. Hein? On vient de pécher. On vient de dire à notre enfant, espèce de hein? Ou au chauffeur là, qui nous a coupés. Hein? Ça vient facile, hein? C'est naturel. La chair stupide est encore là, puis elle peut faire beaucoup de dégâts. Alors, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner pour nous. Purifier de toute iniquité, de nous laver hein, un peu plus bas. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et c'est là ce que vous étiez. Vous n'êtes plus des injustes. Hein? Vous n'êtes plus des pécheurs. Ce n'est plus ça votre nature. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de notre Dieu. Qui le veut? Qui le veut? Es-tu des pécheurs qui veulent être lavés, purifiés? Hein? Tout ce que tu as fait de mal, là, des choses que tu as honte puis tu, dans ton passé, puis tu voudrais effacer ça, mais il n'y a rien que tu peux faire. Mais il y a une grosse efface. Là, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, il peut tout effacer ça. Veux-tu l'accepter aujourd'hui? Veux-tu recevoir son pardon aujourd'hui? Mais confesse que tu es un pécheur, que tu es perdu, puis que Dieu seul peut effacer tout ça. J'ai besoin d'un cœur qui est purifié, qui est lavé. Dans un autre verset, il parle de se dépouiller et revêtir l'homme nouveau. Hein? Vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Accepter Jésus, c'est comme on se débarrasse d'une vieille nature, puis on met un nouvel habit. On se promène maintenant, puis on revêt la sainteté de Jésus. On a un cœur nouveau qui veut aimer Dieu, qui aime la sainteté, qui aime obéir au Seigneur, qui aime servir le Seigneur. Qui veut un cœur nouveau? Hein? Il y a une nature pécheresse qui nous attire, mais on reçoit un nouveau cœur qui est plus fort et qui désire être lavé, purifié. Jusqu'à quel point c'est grave, le péché? On a vu tantôt, hein, celui qui dit à son frère, stupide, mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Est-ce que c'est grave, le péché? Peut-être à nos yeux, c'est naturel, tout le monde le fait, mais aux yeux de Dieu, le péché est tellement grave. Est-ce que jusqu'à quel point est-ce qu'on est perdu? Un petit peu perdu? Jusqu'à quel point est-ce que Jésus est un sauveur? Jusqu'à quel point Jésus nous a sauvés? Est-ce qu'on peut prendre conscience de ça? Être conscient de ce que ça l'a coûté à Dieu, le Père, et à son Fils, Jésus, pour ce péché-là qu'on a commis? J'ai une petite histoire pour terminer. C'est un monsieur au Mississippi qui est l'opérateur d'un pont-levis. Et il est là avec son fils, un garçon de 8 ans, qui est en train de prendre leur lunch tranquillement. Et il jase, puis il dit, « Ah, papa, j'aime ça, venir travailler avec toi. Regarde un beau voilier qui s'en vient. » Oui, il dit, c'est pour lui. On a levé le pont-levis pour lui, pour le laisser passer. Et puis tu vois, quand le pont est levé, les bateaux peuvent passer. Puis... Et lorsqu'il y a un train qui s'en vient, c'est un passage pour les trains, lorsqu'il y a un train qui s'en vient, bien, on abaisse le pont et puis le train passe dessus. Ah, il dit, papa, c'est toi le contrôleur? Il dit, oui. Bien, il dit, moi, je vais être contrôleur quand je vais être grand. Quand je vais être plus vieux, là, je vais faire ça. Ah, il dit, c'est bien. Et là, il entend le train qui siffle. Il y a un train qui s'en vient. Le petit garçon, il dit, t'as-tu entendu le sifflet, papa? Oui, oui, il y a un train qui s'en vient. Il dit, c'est l'express de 1 heure avec 400 passagers à bord. Alors, c'est le signal, il me dit d'abaisser le pont tout de suite. Fait qu'il dit, attends-moi ici, là, et je reviens dans quelques minutes, je vais aller abaisser le pont. Oh, il dit, oui, papa, j'ai hâte de voir ça. Alors, le père, il se rend à la cabine de contrôle, et il est pour abaisser le levier de la commande. Il regarde s'il n'y a pas de bateau. Mais il ne voit pas son garçon. Son garçon a disparu. Le garçon est tombé dans les engrenages qui opèrent le pont-levis. Sa jambe est prise dans l'engrenage. Il se débat désespérément. Il crie à l'aide. « Au secours, papa, au secours! Papa, je suis tombé. Ma jambe est prise. » J'ai mal, je ne peux plus bouger. Viens, papa, viens à mon secours. Et là, le père, il est sidéré, paniqué. Il fait quelques pas pour aller le dégager de là. Puis là, le train siffle. Il l'entend venir. Le petit garçon, il crie, « Papa, papa, abandonne-moi pas, je suis pris. Viens me secourir. » Puis là, on entend le train qui s'approche de plus en plus. Il y a 400 passagers dans le train. Je n'ai pas le temps d'aller délivrer mon fils. Il entend le train qui s'en vient. Les cris de son garçon. Il enfonce la tête dans ses bras, puis il descend le levier. Puis son fils qui crie à mort, qui meurt dans les hurlements, pendant que le train passe, sauf 400 personnes. L'homme est figé. Pendant qu'il voit les gens à l'intérieur, il y a un homme d'affaires qui lit son journal, il y a une dame qui prend son café tranquillement, une fillette qui joue avec sa poupée, une personne qui dort, il y a un jeune qui est branché sur son iPod. Les personnages sont indifférents. Personne ne regarde le père. Et lui, il crie, « Savez-vous ce que ça m'a coûté de prendre votre petit café? J'ai sacrifié mon fils pour vous, pour que vous puissiez vivre. Ça ne vous fait rien? Votre indifférence me tue, me fait mal. » Alors, le train passé, les passagers sont disparus. Le père, il reste prostré. Dans le journal de Memphis, on lit, par un bel après-midi d'été, c'est en 1937, par un bel après-midi d'été, sur le bord de la rivière Mississippi, est décédé le jeune Greg Griffith, âgé de 8 ans, fils de John Griffith, contrôleur. À 1h07, pendant que le Memphis Express et ses 400 passagers franchissaient en toute quiétude le pont enjambant la rivière Mississippi, le jeune Greg mourait, affreusement broyé sous les dents de l'énorme engrenage du pont-levis. Le père de Greg a sacrifié son fils pour sauver la vie de ces 400 personnes. Ça, c'est juste une petite image de ce que Jésus a enduré et de ce que le Père a enduré quand son fils est mort sur la croix. Est-ce que le péché, c'est grave, mes frères, mes sœurs? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être sauvé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui reconnaît qu'il est pécheur? On va aller dans la prière. Vous pouvez venir avec moi? Vous pouvez faire cette prière. Seigneur, oui, Seigneur, je suis pécheur. C'est ma nature, ma vieille nature, pécheresse, qui me pousse à dire ces choses, à faire ces choses. Et Seigneur, j'en ai honte. Je suis coupable de ces choses-là. Et j'aimerais, Seigneur Dieu, m'en débarrasser, mais je ne suis pas capable. Alors, Seigneur, je te demande de me pardonner, de me laver, de me purifier de toutes ces fautes-là que j'ai commises jusqu'ici. Et je t'accepte, Seigneur, comme mon sauveur, comme celui qui, sur la croix, a payé pour tout ce que j'ai fait et dit de mal dans ma vie. Et je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur. Et avec ça, Seigneur Dieu, je rejette ce vieil habit, cette vieille nature, et je reçois cette nouvelle nature, ce cœur nouveau qui veut t'aimer. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'obéir et te servir. Dehors les cochonneries, Seigneur, j'ai un cœur pur maintenant. Je veux vivre dans la sainteté. Pardonne-moi, Seigneur, et je reçois ton pardon maintenant. Je reçois ton pardon maintenant. Je crois que tu m'as lavé, purifié, et je crois que je t'accepte comme mon sauveur personnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever sa main et la tendre vers Dieu? Il y a une grosse main, là. Il y a une grosse main qui vient te sauver. Qui vient prendre ta main pour te sauver. Veux-tu mettre ta main dans la main de Dieu? il peut t'arracher à cet engrenage qui est la mort et te donner une vie nouvelle pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais vous laisser de quoi méditer durant la semaine à ce sujet-là. C'est A.B. Simpson, qui est le fondateur de l'Alliance, qui a écrit un livre sur le salut. Alors, c'est quoi la signification du salut? Quand on dit qu'on est sauvé, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, rapidement, ça veut dire que le salut enlève la culpabilité du péché. Le salut nous sauve de la colère de Dieu. Le salut nous délivre de la malédiction de la loi. Le salut nous libère d'une mauvaise conscience. Le salut nous délivre d'un cœur mauvais. Le salut nous délivre de la crainte de la mort. Le salut nous délivre du pouvoir de Satan et de son royaume de ténèbres. Et le salut nous délivre de la mort éternelle. Wow! On est pécheur, on est perdu. Et le Seigneur nous tend la main, il vient nous chercher, puis il dit, « Je te donne une vie nouvelle.